Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Mélanie Gomez, comment s'appelle cette chanson?
Moi qui venais lui demander.
C'est Power of Love, bien sûr. De qui, Julia?
Alors, le groupe, je ne le connais pas, mais je
Harry Lewis.
Ah voilà, non, très bien, Mélanie.
Ouais, bien.
Merci beaucoup. Vous écoutez Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre.
Et on a deux accents anglais.
Ah voilà, absolument abominable.
C'est ça.
C'est tous les matins sur Europe 1 jusqu'à midi. Alors, l'amour peut-il nous transformer? On en parle tout en douceur, mais aussi de façon scientifique ce matin avec nos spécialistes, la thérapeute de couple Florentine Dolnoy-Wang, ainsi que le professeur Bernard Sablonnière, médecin biologiste, chercheur en neurobiologie et professeur de biochimie. Alors professeur, l'un des exemples les plus marquants de la chimie des sentiments sur notre corps, c'est ce qu'il se passe quand on subit, quand on a la chance de subir, pourquoi mettre subir d'ailleurs, un coup de foudre. Et tout ça n'est pas un mythe, parce que ça s'explique, je crois, grâce à la science. Il va falloir nous dire comment.
Oui, ça s'explique. Il y a une situation un peu stressante qui est mêlée de désir, d'une envie irrésistible de rentrer dans l'intimité de l'autre. Mais rentrer dans l'intimité sentimentale, sensorielle de quelqu'un, c'est pas facile. Donc, il y a une décharge d'adrénaline et de noradrénaline. Au début, c'est une espèce de peur. Et ensuite, il y a une autre hormone, une autre clé chimique du cerveau qui gouverne le circuit du désir, la dopamine, qui entre en jeu et qui fait que tant qu'on n'est pas sûr que ça va marcher, on est dans le désir fou.
Et est-ce qu'on se surpasse? Est-ce que cette dopamine nous permet de surpasser nos peurs?
Oui, cette espèce d'orage de désir, bien sûr, au début, fait qu'on est complètement ouvert au niveau de nos sens pour percevoir tous les messages de l'autre.
On est en alerte, vous voulez dire, comme un animal dans la nature?
Ah, ça peut se voir au niveau de l'expression du visage, et puis aussi on y reviendra avec ces espèces d'épisodes un peu obsessionnels qu'on voit dans la passion amoureuse, mais on en reparlera un peu plus tard.
Mais professeur Julia a dit subi, alors c'est vrai qu'on a du mal à mettre le mot subir et coup de foudre en même temps, mais c'est ça, parce qu'on ne le contrôle pas, on est d'accord, c'est quelque chose qu'on subit quand même.
Non, on ne peut pas le contrôler, parce qu'une fois que le circuit désir-récompense se met en jeu, il faut aller jusqu'au bout, il faut pouvoir percevoir cette récompense de la relation qui marche.
Florentine, pourquoi une rencontre parfois très brève peut nous marquer autant, nous chambouler à ce point? C'est pas juste de la chimie quand même. Je crois que dans votre cas, il y a une histoire de gratin dauphinois, j'ai pas compris.
Oui, j'en ai parlé dans le TEDx. Il y a cette chose de... Il y a cet enseignement instantané de nos parties perdues. Mmh. Dans le recrutement amoureux, il y a plusieurs ingrédients. Il y a « je vois la merveille que tu es », parce que je pense qu'on est tous des merveilles. On a fait un voyage, on en a mis certaines parties au congélateur, dans notre enfance, nos blessures, nos cicatrices, mais on est des merveilles. Donc il y a, un, je vois la merveille, deux, waouh, t'es hyper vivant là où moi je suis très congelée. Mm-hmm. Et ça, c'est irrésistible. C'est vraiment waouh. Et le troisième ingrédient, c'est que inconsciemment, je ne le sais pas encore tout à fait, mais tu vas me remettre dans des émotions hyper compliquées pour moi.
Quel rapport avec le gratin dauphinois?
Le gratin dauphinois.
Julien lui parle de cuisine, c'est compliqué. Déjà,
j'arrive chez Edouard, il est dans sa cuisine, il a un tablier, il a un livre de recettes, il y a des pommes de terre déjà épluchées dans une balance. Mm-hmm. Et là, je sens mon cœur qui fait « waouh ». Moi, j'ai été élevée dans une maison où on ouvre le frigidaire, on prend ce qu'il y a dedans, on coupe en morceaux, on met au four et c'est parti. Et on ne sait même pas combien il y aura de personnes à table. Mm-hmm. Et donc, dans mes parties perdues, il y avait structuré, organisé, suivre une recette. Et depuis 25 ans que je suis avec cet homme, qu'est-ce que j'ai regagné ça? Et ça, c'est la mission du couple.
C'est peut-être pour ça que vous m'avez aimé, Julien.
Parce que vous savez faire le gratin.
C'est ça. C'est une très bonne recette, je vous le ferai, c'est promis. Florentine, justement, est-ce que avoir un coup de foudre, alors vous avez eu la chance de le vivre, vous, mais est-ce que c'est un signal important? Et est-ce que c'est forcément signe que c'est la bonne personne?
Pas forcément. C'est l'enseignement qu'il y a des parties perdues qui vivent là en face que moi je porte pas. Et il y a l'amour et puis après il y a la capacité de relationner. Il y a le plaisir et l'envie et la possibilité de relationner au long cours, de fonder quelque chose. Et c'est complètement différent. Mmh. On commence à aimer quand on arrête d'être amoureux quelque part.
Hein. Oui. Oh, c'est beau ça. Mmh.
Ça, c'est juste, beau, ça. Je trouve.
Professeur, on dit que les phéromones jouent aussi un rôle dans l'attirance qu'on peut avoir pour quelqu'un. Comment ça marche et de quoi on parle précisément? J'ai jamais su ce que c'était, moi, les phéromones.
Les phéromones, si vous connaissez le monde des fourmis, oui, bien sûr, ça marche chez les fourmis, des signaux chimiques qui leur permettent un peu de contrôler leur comportement. Chez l'homme, il n'y a pas de phéromones. Ça n'existe pas. Mais il y a des chercheurs toujours un peu curieux, notamment dans les années 80, un Suédois, qui a montré que quand ça commençait à marcher dans le phénomène d'attirance entre deux personnes, il y avait des petites régions de l'hypothalamus qui s'activaient. Mais il faut quand même placer l'individu soit en IRM, soit en radiologie spécialisée pour détecter cette activation. Donc il y a peut-être quelque chose d'un peu inconscient qui est lié probablement à des dérivés d'hormones sexuelles, mais bon,
oui,
ce n'est que secondaire.
Moi j'avais toujours entendu dire qu'on transpirait un peu de une odeur ou un truc qui fait qu'on attire l'autre, parce que non, c'est n'importe quoi ça.
Non, oui, ça c'est pas...
Non, ça, c'est... Il faut juste prendre une douche, Julien, c'est tout.
La sudation peut être une expression émotionnelle.
Oui. Oui. Florentine, la phase de séduction, c'est souvent le moment où justement, alors je dis pas on a envie de changer tout de suite, mais en tout cas on a envie de se montrer vraiment sous le meilleur jour. Parfois on ment un peu, on fait un peu semblant d'être parfait, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi on se met dans cet état-là? Pourquoi on ment un peu quand même, hein, soyons honnêtes?
En fait, c'est la peur de pas être aimé qui va faire qu'on veut séduire. Il y a une différence entre la séduction et l'amour. La séduction, c'est je vais faire comme si j'étais un soi idéal. Je vais faker quelque chose. Alors que dans la rencontre amoureuse, d'être vu, rencontré, aimé, fait ressortir le beau de nous. C'est pour ça qu'on est tellement magnifique quand on tombe en amour. C'est pour ça qu'il y a notre tendresse, il y a notre désir, il y a l'envie de faire des surprises, il y a le plus vivant de nous se réveille. On n'a pas besoin de séduire. Juste être, se laisser rencontrer, on est magnifique.
On est magnifique, mais quelle prise de risque, hein. C'est parfois compliqué, ouais, évidemment, et de, ouais, se montrer tel qu'on est. Et surtout, ouais, au départ, c'est quelque chose que vous conseillez, Florentine, de se mettre entre guillemets à nu, de ne pas réfléchir et de ne pas se montrer, comme disait Mélanie, sous son meilleur jour?
Toujours, tout le temps. Authenticité, vulnérabilité, c'est ça qui va créer l'intimité, c'est ça qui va créer les possibilités du lien. C'est ça qui va faire qu'on est détendu, les masques. C'est ça qui va faire qu'on est point.
Et pas en train de se vendre.
Oui, oui, c'est ça. Parlons un peu de dopamine. Vous en avez évoqué déjà un petit peu, là, cette substance, tout à l'heure. Mais comment elle joue? Comment elle travaille justement dans cette phase de séduction, de tomber amoureux, transi? Comment elle s'active, celle-ci?
Alors, la dopamine, c'est l'hormone de l'envie et du désir. D'ailleurs, il y a un bon moyen de s'en rappeler. C'est que dopa, pour moi, ça veut dire désir obligé de passage à l'acte. Même si chimiquement, c'est un peu différent. Mais oui, comme on vient d'échanger... on a un empressement avec ce circuit du désir qui s'active, un empressement à obtenir la récompense de l'autre. Et c'est pour ça qu'on va gommer toutes les émotions négatives qu'on a sur soi, on va se montrer très beau, comme on le disait, et on va percevoir un maximum d'émotions positives également de l'autre.
Mais elle n'a pas une grande longévité, alors celle-ci, puisqu'après, au bout d'un moment, on se montre en jogging pourri, et vous voyez ce que je veux dire.
En fait, c'est une clé chimique, donc c'est un message libéré par les neurones qui va activer un circuit particulier qui s'appelle le circuit de l'envie.
Et celui-ci, ça me nuise au fur et à mesure des années, parfois?
Alors, le circuit de l'envie, il est régulé tout de suite par la perception du plaisir. Et là, le plaisir va entraîner des endorphines, de l'ocytocine, qui vont calmer cette passion de désir et pouvoir procurer
l'attachement,
la récompense. Ouais, on en
c'est ce que disait Florentine, finalement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand l'état amoureux disparaît, l'amour peut enfin naître.
Exactement, on en parlera avec l'attachement.
Oh là là. Et alors, parfois, on en a parlé, Florentine, on se lance avec quelqu'un qu'on aimerait bien pouvoir changer. On a compris, c'est pas forcément changer, c'est évoluer, c'est une transition, tout ça. Mais quand même, est-ce que c'est une bonne idée, selon vous, d'être dans une relation qui ne nous convient pas, en espérant que l'autre va changer ou tout du moins se transformer?
La relation, par définition, elle ne nous conviendra pas. Parce que la relation, elle est là pour nous mettre au travail. Elle est là pour appuyer sur nos boutons rouges et dire « Tu es beaucoup plus vivant que ça. Tu es beaucoup plus entier que ça. Réveille-toi. » Et donc, l'autre va nous faire passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça passe ou ça casse. C'est merveilleux et on ouvre ensemble un espace dans lequel on va se faire grandir et guérir. Ou on se heurte l'un à l'autre et on se rétrécit.
Eh bien, merci beaucoup pour cet échange. Évidemment, on reste encore ensemble, on revient dans quelques minutes et on va poursuivre sur ces transformations provoquées par l'amour. Alors, on dit souvent qu'il rend aveugle. On va vous rendre la vue ici en vous décryptant précisément comment tout ça fonctionne. Vous êtes bien sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie. Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous sur Europe 1, on est avec vous jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 11h29. Pourquoi l'amour peut-il nous transformer? On vous éclaire grâce à nos invités, Florentine Dolnoy-Wang, ainsi que le professeur Bernard Sablonnière. Ils sont toujours avec nous. Professeur Sablonnière, dans une relation, il y a une autre hormone qui est très importante. On l'a un tout petit peu abordée tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'amour, l'ocytocine. Comment elle fonctionne, cette hormone, concrètement, dans notre organisme? Moi, j'avais surtout en tête qu'elle était sécrétée au moment de l'accouchement, pour s'attacher à son bébé, mais ça marche aussi en amour, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire qu'en 1930, un biochimiste a découvert qu'effectivement, elle était responsable des contractions utérines, et puis 50 ans plus tard, une autre biochimiste française, d'ailleurs, a découvert qu'elle était libérée dans le cerveau, dans des circuits qui sont fondamentaux pour permettre d'être calme dans une relation équilibrée avec l'autre. Et après la phase de séduction, de passion amoureuse, effectivement, au bout de 2-3 ans, le circuit désir s'active beaucoup moins, et c'est surtout le circuit de l'attachement qui se met en route, ce qui va entraîner une diminution considérable du stress. Donc l'ocytocine, c'est une hormone qui permet d'être bien. Et ce qui est remarquable chez l'homme, c'est qu'on a prouvé que dans le cerveau humain, il y a une très grande richesse de ces récepteurs d'ocytocine, ce qui nous permet d'avoir des couples qui peuvent parfois être très fidèles très longtemps, et donc d'avoir une fidélité dans la relation qui est très très longue.
Mais professeur, est-ce à dire que les gens qui ont peut-être, je sais pas, des difficultés à s'engager, à se mettre en couple, est-ce que c'est des gens qui auraient peut-être un déficit en ocytocine?
Est-ce qu'on peut pas leur faire un petit shoot d'ocytocine? Problème chimique.
Oui, alors ça a été étudié, c'est un peu compliqué parce que évidemment il y a pas de petits flacons qui délivrent ça à la seconde dans le cerveau, mais il y a des transporteurs. Il y a ce qu'on appelle du recyclage, c'est-à-dire les neurones vont recapter l'ocytocine, et ceux qui transportent bien, ceux qui ont des récepteurs à l'ocytocine qui fonctionnent bien, eh bien figurez-vous, la génétique l'a montré, ceux-là auront moins tendance à divorcer que les autres.
Ah, parce qu'ils sont bourrés d'ocytocine?
Parce que le récepteur marche mieux.
Elle s'attache mieux.
Ah, ouais. Génial. Alors justement, l'ocytocine, est-ce que ça ne serait pas cette hormone aussi qui rend l'amour aveugle? Un petit peu, professeur.
Alors, pas tout à fait. L'amour aveugle, je dirais que c'est un excès de dopamine qui fait que le circuit du désir est tellement emballé qu'il met de côté le circuit ou le cerveau de la volonté et de la raison. D'accord. C'est ce que je dis quelquefois dans mes conférences. Le premier soir, c'est pas là où on voit qu'il laisse traîner ses chaussettes.
Oui, bien sûr.
C'est vrai.
Ni même le deuxième.
C'est ça.
Faut attendre un peu.
Florentine, selon vous, l'amour ne rend pas aveugle. Vous dites qu'il rend visionnaire. On s'éveille au contact de la personne que l'on aime. Et donc, c'est là le fameux truc de décongélation, de potentiel enfoui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
C'est ça. Vraiment, je nous vois comme des merveilles qui avons vécu un voyage dans notre enfance et qui a pu nous faire congeler des parties de nous. Et l'amour, tomber en amour de quelqu'un, c'est voir au-delà de tous les masques la merveille, l'huile essentielle de la personne. Évidemment, tomber en amour, on voit ça, on voit pas tout ce qui est au congélateur. Ça va être le chemin d'une vie, ça va être le chemin d'un couple, ça va être le chemin d'une relation.
Et quand au congélo, on s'aperçoit qu'il y a des choses moins merveilleuses, comment qu'on fait quand c'est décongelé?
Eh ben, on les décongèle, on les regarde et on avance en les regardant, en sachant qui on est. C'est ça être conscient, c'est ça la relation consciente.
Mais c'est ça, franchement, Florentine, une belle relation, c'est quelqu'un qui nous pousse à devenir meilleur chaque jour. Si on sent qu'on n'est pas meilleur, parce que si on entre en relation avec quelqu'un et que, par exemple, on devient très jaloux, ça peut arriver, et qu'on n'a pas l'impression d'être particulièrement quelqu'un de jaloux, mais que ça éveille ça chez nous, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la relation?
Il y a deux carrefours à cette question. Je ne dirais pas devenir meilleur, je dirais se rapprocher de soi, de son potentiel, de la merveille, encore une fois. La jalousie, c'est juste que dans mes expériences précoces de l'amour, dans le lien avec quand j'étais un petit enfant, bébé, j'ai cru que j'étais pas vraiment aimable. Et donc, à chaque fois que je suis attachée à quelqu'un, cette peur panique vient. C'est plus ou moins profond et ça peut se restaurer, encore une fois. C'est à mettre au travail.
Professeur Sablonnière, on parle donc de cet amour qui nous transforme. Est-ce que, avec toutes les hormones que vous avez citées jusque-là, on a vu qu'il y avait quand même une chimie incroyable dans notre cerveau, mais pas dans notre cœur. Enfin, quoique les deux sont liés, hein, ça aussi on l'a compris. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que quand on est amoureux, quand on tombe en amour, on est dopé, ça nous permet de, je sais pas, de ne plus avoir peur? On sait que la drogue, hein, certaines drogues peuvent faire ça. Est-ce que l'amour, c'est pareil?
Ben oui, parce que ça crée un déséquilibre de ces fameuses clés chimiques. Et il y a une autre clé chimique dont on n'a pas parlé, qui a beaucoup d'effets sur le cerveau, qui s'appelle la sérotonine, qui va calmer un peu le jeu, jouer le rôle un peu de régulateur. Mais évidemment, comme en amour, il y a une forte libération de dopamine, le circuit du désir, de l'envie d'entrer en relation avec l'autre est fortement activé. Et à ce moment-là, les freins du cerveau fonctionnent un peu moins bien.
Mais dites-moi, ce que vous me racontez là, on dirait une forme de dépendance. Est-ce que le fait d'être accro peut nous rendre accro à l'amour et à l'envie d'être en état amoureux?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, la région du cerveau, notamment l'insula, cette région qui nous permet de percevoir du plaisir, qui est liée au cerveau du désir, quand on regarde en IRM ce qui se passe, eh bien, ce sont les mêmes circuits qui sont activés lors de la prise de drogue. Et je voudrais citer un auteur qui a vraiment décrit, qui a compris l'effet addictif de la relation amoureuse, bah c'est Freud, qui écrivait à son collègue Karl Abraham, je cite, « Nos drogues et nos excitants sont les substituts d'une substance qui reste à découvrir, la même substance que l'intoxication à l'amour procure.
Wow. »
Il a écrit ça en 1916, et la dopamine a été décrite chimiquement un petit peu plus tard, et puis après les effets sur le cerveau bien plus tard, évidemment.
Alors, on sait prendre en charge aujourd'hui, justement, certaines addictions, se désintoxiquer de substances nocives pour des gens qui seraient très malheureux. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, on fait du futurisme là, mais bon, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour on trouverait peut-être un médicament au mal d'amour ou est-ce qu'on pourrait agir ou est-ce que c'est pas utile?
C'est difficile à répondre. Ce qui est certain, c'est que comme l'amour, la relation amoureuse est un mécanisme physiologique, le cerveau a tout prévu. C'est-à-dire que même une activation très forte, une passion amoureuse vécue comme vraiment très violente, il y a des mécanismes de régulation dans le circuit désir-récompense qui fait que au bout de quelques mois, les choses vont se réguler tout seules. Il n'y aura pas de destruction de la perception de la récompense aussi forte que ce que l'on voit lors d'une addiction avec une drogue dure. Donc le cerveau est bien fait. Il sait que l'amour doit être une drogue naturelle. Et les cas dont vous parlez, qui peuvent correspondre à des situations quasiment pathologiques, heureusement restent assez rares.
Donc le chagrin amoureux, il y a quand même une petite période de sevrage.
Bien sûr, il y a une dépendance émotionnelle, il peut y avoir jusqu'à une dépendance physique avec des troubles liés au stress, les remontées des hormones du stress, puisque l'ocytocine est beaucoup moins libérée. Mais comme je le disais, c'est heureusement...
Dans la majorité des cas, on se répare. Voilà. C'est ça, on va dire ça comme ça. Florentine, est-ce que ce n'est pas nécessaire peut-être pour qu'une relation dure dans le temps? On l'a dit tout à l'heure, vous n'aimez pas le mot « l'amour change », mais l'amour nous transforme. Est-ce que c'est pour qu'une relation dure et dure très longtemps, c'est nécessaire, je veux dire, de s'adapter, d'évoluer avec son partenaire? Si on ne le fait pas, ça casse, j'imagine.
Oui, ce que je dis souvent, c'est que l'amour ne suffit pas. En fait, il faut se compétencer. Il y a des choses à apprendre et il y a des choses à, il y a des pratiques et des rituels à mettre en place pour faire que vivre, collaborer, cohabiter devienne une source de plaisir. Que quand je suis déclenchée par les actes de l'autre, je sois consciente des émotions auxquelles ça me ramène, que je sache les écouter, m'orienter, les gérer, pas en faire de la bouillie relationnelle. Il y a beaucoup, beaucoup de compétences pour relationner.
Professeur, ça veut dire qu'être amoureux et être amoureux longtemps, ça veut dire qu'on fait beaucoup travailler son cerveau pour se transformer. On parle parfois de plasticité cérébrale. Être amoureux et être amoureux longtemps, ça veut dire qu'on fait marcher tout ça et bien comme il faut.
Oui, exactement. Une forme de plasticité émotionnelle, parce que là aussi, au fur et à mesure de la relation, au fur et à mesure des habitudes, au fur et à mesure de regarder l'autre tel qu'il est, eh bien, on finit soi-même par avoir une émotion qui est beaucoup plus contrôlée, qui est beaucoup plus ouverte à l'autre.
Florentine, vous dites que les opposés s'attirent, mais est-ce qu'au fil du temps, finalement, les deux moitiés d'un couple finissent par se ressembler? Moi, c'est la sensation que j'ai en regardant de vieux couples. À quoi ça sert de prendre l'opposé, du coup? Pourquoi on ne prend pas direct?
On finit pareil.
Ce ne serait pas qu'on finit pareil. Déjà, je ne pense pas qu'on soit deux moitiés. Je pense qu'on est deux entièretés assez congelées et que faire fonctionner ce chaudron, cette médecine du couple au long cours, nous rend à nos entièretés. Et donc, on est capable de plus. Et je pense que tous, finalement, au fond... Même si on a notre huile essentielle à chacun, tous pareil.
Bon, on a fait le point sur la décongélation, je crois, aujourd'hui, Julia. On est bon.
Oui, c'est beau. Hein.
Allez. Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien et merci pour tous vos conseils. Je rappelle au passage vos livres respectifs. Professeur Sablonnière, votre dernier livre paru, c'est donc Les mystères du corps humain chez Odile Jacob. Et le titre du vôtre, Florentine, c'est Clé de l'intelligence amoureuse aux éditions Larousse. Merci beaucoup. On va passer à quoi, Julia?
Eh bien, à notre quart d'heure des bienfaiteurs. Et premier bienfaiteur du jour, ce sera Jérémy Combe, notre monsieur bonne manière. Il va nous rappeler les règles indispensables pour bien se tenir à table. Le genre de petit rappel qui fait toujours du bien à entendre. Et puis, avec Gavin's Clément Terruiz, on va prolonger un peu les vacances et on va partir sur des îles non pas désertes, mais désertées par les touristes à moins de 3 heures de la France. Voilà le programme, à tout de suite sur Europe 1.
Bien fait pour vous sur Europe 1.